Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagi Wallmills. Dagi Wallmills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagi Wallmills.
Alléluia! Père, merci pour cette opportunité. Aujourd'hui, nous sommes bénis dans ta présence. Merci Seigneur. Parle à notre cœur et guide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Quelle bénédiction. Nous sommes excités d'être de retour. La semaine passée, dimanche, j'étais à Séchuy. Je ne sais pas quelle ville. Séchuy-Bekwai. C'est un endroit très important au Ghana. Et nous étions bénis quand nous sommes allés dans toutes les trois villes pour les campagnes, Séchuy à Sawinsu, Séchuy Bekwai et puis Séchuy Yosu. Et nous avons aussi vu beaucoup de choses. Je n'ai pas été à cet endroit, bien que c'est au Ghana. Nous avons vu un pays appelé Awasu. C'est dans cette ville qu'on mine les pierres précieuses qu'on utilise pour construire les rues, le bauxite. Vous allez voir beaucoup de rails, beaucoup de trains qui sont déjà gâtés. Qu'on utilisait avant, mais aujourd'hui, on ne les utilise plus. Il y avait même un échangeur des trains là-bas, à Wasu. Et les Britanniques nous ont laissé avec 941 kilomètres de rails. Et comme vous le savez aujourd'hui, je ne sais pas combien de gens ici ont utilisé les trains, mais aujourd'hui, tout est gâté et ce n'est pas la faute des Britanniques, mais c'est la faute de ceux qui sont venus après les Britanniques. Et c'est très étonnant. Nous sommes riches quand même au Ghana. C'est un certain type de diabète. Il y a beaucoup de sucre dans le sang, mais le sucre n'atteint pas les cellules, qui est étonné d'entendre et de voir qu'il y a une ville qui a tous les bauxites, qui peut faire toutes les rues, mais les rues d'Accra, Kumasi, ils sont toujours les mêmes. Mais nous remercions l'Éternel pour l'opportunité de voir et d'apprendre. Le mauvais leadership a poussé le Ghana d'être pauvre. Mais le Ghana n'est pas un pays pauvre. Vous êtes toujours là? Donc vous devez tous apprendre de ça. D'accord? Et puis, nous serons bénis si nous allons apprendre. L'une des raisons pour lesquelles les mauvaises choses sont écrites dans la Bible, c'est qu'on apprenne pour voir que nous sommes les mêmes. Ce matin, je veux prêcher sur un message très court. Il s'agit d'un mot du grec qui est syniazo. Et l'ordre grave, c'est S-I-N-I-A-Z-O. Je parle de syniazo contre l'onction. Syniazo contre l'onction. Donc, le mot, c'est S-I-N-I-A-Z-O. C'est un mot grec qui veut dire secouer ou tamiser ou... Et ce mot se trouve une seule fois dans la Bible, en Luc. Luc 22, 31. Et je crois que le Saint-Esprit te parlera. La Bible dit... Il dit, Simon, Simon, Satan a désiré de ta voix pour te tamiser comme du blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi n'échoue pas. Amen. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. D'accord? Maintenant, verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, et je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Maintenant, j'aimerais que vous voyiez l'œuvre du diable clairement, afin qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas douter quand le diable vous attaque. Vous n'allez pas penser que c'est quelque chose, parce que le diable aime être l'attaquant, bien qu'il est toujours caché. C'est pourquoi il est décrit comme un serpent. Parce que l'un des outils du diable, c'est d'être camouflé et l'embuscade. Donc, vous savez, quand vous regardez un peu de documentaire sur les serpents, vous n'allez pas marcher juste comme ça dans les forêts parce que il y a des serpents qui ressemblent aux feuilles marron. La tête est comme une feuille marron. Vous allez penser que ce sont des feuilles marrons, mais ce sont des serpents. Vous allez voir aussi les serpents verts comme les herbes vertes. Et l'arme préférée de l'ennemi, c'est d'être camouflé et de se mêler avec des choses. C'est pourquoi souvent, quand on tue un serpent, tout le monde est étonné de voir un serpent parce que le serpent ne se voyait pas. On avait désherbé l'endroit, on avait coupé les herbes, tout. On n'a pas su qu'il y a un serpent là-bas. Donc, le diable aime se cacher derrière les choses pour causer des problèmes. Donc, quand Jésus a dit « Satan a désiré te faire quelque chose », nous devons tous tourner nos caméras pour regarder bien qu'est-ce qui s'est passé à Pierre. Ce qui s'est passé à Pierre était clair. La première chose, Pierre a dit, j'ai une grande vision pour ma vie. Ma vie, c'est de suivre Jésus-Christ jusqu'en prison, même à la mort. Vous n'allez pas trouver les gens avec de grandes visions pour Dieu. Il a dit, je vais te suivre même aux États-Unis. Mais il a dit, Pierre, je vais te suivre même jusqu'en prison et à la mort. Donc ça, c'est une grande vision maintenant. Le temps quand Satan avait fini avec Jésus, avec Pierre, là, Jésus dit que avant que le coq ne crie, si tu es une personne de la nuit, tu vas comprendre quand est-ce que les oiseaux chantent. Aujourd'hui, par exemple, l'oiseau qui a chanté chez moi était en retard. Parce que normalement, l'oiseau chante 15 minutes après 4. 4 heures de temps. Mais aujourd'hui, il était en retard. Il a chanté 10 minutes à 5 heures. Et je me suis dit, non, ça, ce n'était pas. Il n'est pas venu à l'heure. Et Jésus a dit que au moment où le coq va chanter, tu vas me nier. Et Pierre était sous pression de changer sa vision. L'idée d'aller en prison, il a tout abandonné. On lui demandait, est-ce que tu connais Jésus? Tu es un de ses membres? Il a dit non. Un, je ne vais pas en prison avec lui. Numéro 2, je vois que je ne peux pas mourir avec lui parce que je vois l'esprit de mort autour de lui. Donc, Pierre était en train de fuir de sa vision. Et voici ce que Satan veut faire dans ta vie. Il veut que tu changes ta vision. Tu n'es plus sur la route que tu avais comme vision pour ta vie. Ta vie est en train de changer. Je ne vais plus mourir. Je ne vais plus aller en prison. Ok, maintenant, voyons s'il veut être même un membre de Jésus. Il a dit, non, je ne suis pas membre. Et il s'est reculé encore. Quelqu'un est venu le voir, il a dit, ah, tu étais avec lui. Et il a dit, je ne le connais pas. Et puis, il a continué de dire que non, je ne l'ai jamais connu. Donc, il était déplacé et il était tenté, parce qu'il a dit, femme, je ne le connais pas, je ne connais pas son nom. Il s'appelle comment même? Tu dis qu'il s'appelle comment même? Donc, tu vas te retirer, un autre a dit. Et quelqu'un d'autre a dit que tu fais partie de ses disciples. Il a dit, monsieur, je ne le suis pas, il faut te respecter. Ne dis pas les choses que tu ne connais pas. Je dis que je ne le connais pas. Et même un enfant est venu vers lui. Oui. Il y avait un enfant aussi. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un enfant est venu. Il dit, moi, je vais te gifler maintenant. J'ai dit que je ne le connais pas. Donc, vous voyez que... Et puis, il y a une jeune fille. Et il a dit, non, j'ai dit que je ne le connais pas. J'ai quitté l'église. J'ai quitté le ministère. Je ne suis plus un prédicateur. Je suis allé chasser les démons, mais je ne suis pas... Son disciple, église, là, il faut oublier, je ne suis plus dedans. La vision a changé, le ministère, non. Peut-être que tu avais une vision d'être un seul mari à une femme, mais une pression peut te pousser maintenant à avoir deux ou trois femmes, sans savoir. Avant que tu ne te réalises, tu vas voir que voici ce qui s'est passé. Donc, pour que Satan te crible comme du fromage ou bien de blé, tu vas voir que ta vision originale sera mise à côté, tu vas devenir quelque chose de différent de ce que tu étais. Oui, tu es avec moi? Et qui se rendent compte que beaucoup de personnes sont différentes de ce qu'ils avaient comme vision de devenir. La plupart d'entre vous, vous critiquez vos parents. Mais aujourd'hui, vous êtes pire que tout ce que ton père ou ta maman faisait que tu n'aimais pas. Aujourd'hui, tu es la même chose, même une version pire. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas commencé pour devenir ce que ton papa était. La plupart d'entre vous, vous aviez dit, je ne vais pas devenir comme mon papa. Mais si tu ne fais pas attention avant de dire Jack Robinson, tu seras en train de devenir exactement ce que tu avais dit de ne pas devenir. Oui. Donc, ça, c'est la pression satanique. Et il y a toujours la pression satanique des gens que Dieu a choisis. Donc, si Dieu t'a choisi, attends-toi à des pressions sataniques. Mais, encore, vous pouvez voir dans cette histoire que aucun dragon avec les ailes a apparu dans cette histoire. C'était un homme, c'était une fille, deux hommes et puis une petite fille. Donc, le diable est en train de faire des choses. Ici, nous voyons Satan à l'œuvre, mais on n'a pas vu un serpent, on n'a pas vu un dragon, on a vu un homme, une fille, un autre homme, mais ça, c'est Satan à l'œuvre. Et ils sont en train de déclarer les paroles, les choses qui sont en train de te pousser pour te pousser hors de la volonté de Dieu. Jésus a dit, Satan a désiré te cribler. Donc, des fois, quand Satan est sur le point de t'attaquer, tu ne vas pas voir un dragon ni serpent, tu vas voir un être humain, tu vas voir quelqu'un en train de te parler. Des fois même, ces personnes te demandent une question innocente. Ça, c'est le diable à l'œuvre. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup de pasteurs ne discernent pas. Quand Pierre a dit à Jésus que tu n'irais pas à la croix, il a dit, Satan a rien de moi. Donc, ce que je vais dire, c'est que même être décrit comme les diables, parce que les effets de ce qu'ils disent, c'est diabolique. La personne peut être Pierre, quelqu'un qui est très proche de toi, ton mari, ton épouse, ton assistant. Ça veut dire la personne la plus proche. Ça, c'est Satan à l'œuvre. Je suis en train de vous montrer quelque chose dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Vous avez vu un Pierre? Vous avez vu un serpent? Ou bien vous avez vu quelque chose? Non. Ils ont parlé en sorte que à la fin, ils n'ont pas. À la fin, Pierre n'a pas pu aller en prison avec Jésus, ni mourir avec Jésus. Tu dis que tu n'as jamais assisté à aucune de leurs réunions et que tu ne comprends pas ce qu'on dit. Ah oui. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous identifiez toute chose qui vous éloigne. Je n'ai pas été un pasteur sans pression. Je ne sais pas si vous avez expérimenté un vent tempétueux. Je suis toujours sous pression. C'est comme un vent qui est en train de me souffle. Oui, soit à l'ouest, à l'est. Ça, c'est la condition sur laquelle j'exerce mon ministère. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pression. Voici comment c'était. C'est de différents endroits, de différentes parties de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je veux que vous décidiez. Tout ce qui est le désir ou l'ambition que vous avez pour Dieu, ne laissez pas Satan ou bien un dragon ou bien un être humain, une femme, un petit conseil te pousse de ce que Dieu a pour toi. Sinon, c'est fini. C'est pourquoi, souvent, les gens que Dieu appelle sont jeunes. Quand tu es jeune, tu n'as pas vu beaucoup de choses, donc tu écoutes la voix de Dieu clairement. Et maintenant, quand tu grandis, tu commences à entendre beaucoup de choses qui disent « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça aussi, ce n'est pas nécessaire. » Ce sont les choses qui sont nécessaires, les choses que tu dois faire. Vous voyez, Dieu nous a donné quelques jours sur la terre pour prouver notre amour, pour prouver que nous voulons le servir. Vous pensez que cette vie-là, il s'agit de quoi? Beaucoup de riches sont en confusion. Je me rappelle, j'ai demandé à un riche, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'essaie d'avoir ce contrat et un autre contrat et un autre contrat. Et j'ai dit, mais tu as de quoi manger, où dormir, quelle voiture rouler, tu as déjà payé les frais, les scolarisations de tes enfants. Donc, qu'est-ce que tu cherches encore? Quel est ton but? Et je crois que beaucoup de personnes ne sont pas philosophiques, mais si vous réfléchissez un peu de votre situation, vous serez dépressif. La Bible dit, il y a un homme qui n'a pas mère ni père, ni femme, ni enfant, ni sœur, ni frère, mais il n'y a pas de fin de sa lutte. Il est toujours en train de travailler et on ne sait pas pourquoi il travaille. Donc, quand vous venez à l'église, Ecclésiaste 4, la Bible dit, il y a un et il n'y a pas une deuxième. Il est seul, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, ni frère. Mais il n'y a pas de fin de tous ses labeurs, ni ses yeux satisfaits des richesses. Et il ne dit pas aussi pour qui est-ce que je travaille. Et il dit, et pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme du bonheur? Cela aussi est une vanité et une ingrate occupation. Donc, vous devez croire dans votre cœur que tout ce que Dieu vous donne comme vision, spirituellement, vous devez avoir une vision. Vous ne pouvez pas avoir une vision pour faire votre master. Moi, je suis un médecin. Un médecin, c'est master avec docteur combiné. Mais cela n'avait pas d'effet sur ma vision de servir Dieu. Dès que l'opportunité était claire et j'avais accompli ce que mon père voulait de moi, c'était ça. Je me suis dit, c'est fini, je vais servir l'Éternel. Et il y avait une petite espace et je suis passé par cet espace. Parce que mon père qui m'avait amené à l'université, quand j'avais 18 ans, je devrais finir le 7 ans de l'école À l'âge de 25 ans, j'étais déjà un pasteur, bien que j'étais étudiant, mais mon papa ne connaissait pas. Donc, il ne faut pas laisser Satan prendre ton appel dans le ministère à plein temps. Quand tu meurs et tu constates que tu n'as pas accompli l'appel de Dieu dans ta vie, tu vas regretter. C'est la même chose quand tu as été diagnostiqué d'une maladie et tu sais que tu vas mourir bientôt. C'est là maintenant que tu vas voir que ta vie sera en train de... Et alors que tu vieillis, tu vas voir plus de toutes ces choses-là. Vous devez être résistant aux pressions sataniques qui vous poussent de Dieu. Et aussi des visions fantastiques que le Saint-Esprit vous donne. Vous êtes fatigué de jouer la folie et tu veux maintenant servir l'Éternel. Mais tu vas voir que maintenant, comme tu as décidé de servir Dieu, il y aura des pressions de toutes les différentes catégories. Tu veux servir Dieu maintenant, mais l'amour pour une femme, la manière dont elle te parle, la manière dont elle te dit des choses, c'est comme si elle est faite d'angel. Ne sois pas trompé, elle n'est pas douce. Elle s'est métamorphosée en quelque chose qui est douce, mais elle n'est pas douce. Elle est dure. Vous voyez, les gens qui sont plus âgés, ils ne pleurent pas. Ils ne sont pas des gens qui sont émus par des émotions. Dis à ton voisin, sois réel. Je ne suis pas impressionné par les comportements faux, de faux comportements. Chia. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu vous a donné une vision. Dieu a mis dans votre cœur de l'aimer et de le servir. Il dit, je vais aller en prison avec toi et je vais aussi mourir avec toi. Mais tu vas voir que quelqu'un s'est introduit dans ta vie avec des paroles. Tu penses que la personne t'aime. Tu penses que la personne a une bonne pensée pour toi. Juste une question. Et Pierre a dit, non, je ne te connais pas. Il dit, je jure le ciel et la terre. Un jour, j'ai vu un frère à l'église. Il avait un bien-aimé. Après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, les deux ne se mariaient pas. J'ai dit, hé! Et un jour, je me suis rendu compte que le frère n'avait pas de plan de se marier à la fille. Donc, j'ai appelé le frère. Je l'avais interviewé. J'ai dit, frère, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier à la femme? Et il m'a dit, quand j'ai rencontré cette femme, j'étais un bon garçon. J'étais clean. Jusqu'à ce que j'ai rencontré cette fille. Elle s'appelle. Elle est Sheila. S'il vous plaît, si vous êtes appelé Sheila, ne vous en faites pas. C'est juste une chanson. Il dit, cette fille ne m'a pas amené en haut, elle m'a amené en bas. Et le gars ne s'est pas marié à la femme. Que toute voix qui lutte contre toi, qui te garde de servir Dieu, soit une voix maudite au nom de Jésus-Christ. Maintenant, faites attention aux voix neutres, aux voix qui ne disent pas, ne le fais pas, fais-le, mais qui demande des questions. Est-ce que tu fais partie de l'équipe? Mais c'est une question qui t'amène de peur. On te demande seulement des questions. C'est une question simple. Mais cette question a un effet. Cette question peut t'effrayer. Il ne faut pas laisser ça. Dieu prendra soin de vous. Regardez à 2 Rois, chapitre. Deux Rois, chapitre 2. Qui a aimé le concert de Aïda? Maintenant. Deux Rois, chapitre 2. À partir de verset 1. Deux Rois, chapitre 2, verset 1. Et il arriva que... Alléluia! Lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Numéro 2. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Verset 3. Et les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Je suis sûr que vous êtes en train de regarder bien. » Ça, c'est ce que j'appelle la bataille pour le double portion de l'onction sur ta vie. Sais-tu aujourd'hui, l'Éternel va enlever ton maître de dessous de ta tête et il dit, je le sais, mais moi aussi, taisez-vous. Vous voyez, ça c'est de la pression, des questions, des commentaires par des gens. Et avant que tu ne te réalises, tu es en train de vaciller, tu es en train de perdre la course, bien que tu aies été choisi pour l'onction. Et Élie dit, lui, Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et ils sont venus à Jéricho. Verset 5, et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Ah !» Donc les fils de prophètes à Bethel ont parlé, et maintenant ceux de Jéricho aussi ont parlé, et ça, ce sont des pasteurs qui ne sont pas loin, qui demandent des questions innocentes. Et ces questions innocentes sont là pour vous dire que, est-ce que tu sais que tu es en train de gaspiller ton temps? Est-ce que vous savez qu'il sera pris? Il sera pris? Vous n'aurez rien. Vous le suivez pour rien. On lui dit ça à Bethel, à Jéricho, et il dit, je sais, il dit, mais taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Et 50 hommes des fils de prophètes sont allés et les deux se sont restés à Jourdain. Les gens vous regardent pour voir ce que t'arrivera alors que tu sèves l'Éternel. Des fois, même la présence des gens, en te regardant déjà, c'est comme la pression sur vous. Ah, vous allez voir.
C'est vous qui dites que vous êtes des chrétiens.
Et les deux se sont restés au Jourdain. Hey. Et Élisée et Élie prit son manteau et le plia et frappa les eaux et elles se divisent de ça et de là. Et ils passèrent eux deux à sec. Et il arriva quand il eut passé qu'Élie dit à Élisée, « Demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée dit, qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Alléluia. Et il dit, tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi de toi. Sinon, cela ne sera pas. Et il arriva comme il allait marchant et parlant, que voici un char de feu et des cheveux de feu. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Beaucoup de personnes pensent que Élie est monté avec un char, mais non. Le char de feu, c'était la seule chose qui pouvait séparer Élie et Élisée. Le char de feu. Donc, il arrivera que qu'il marchait et parlant que voici un char de feu et cheveux de feu et il les sépare l'un et l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Donc, le char, c'était la seule méthode que Dieu avait utilisée pour les séparer. Je te vois toucher le double portion de l'onction. Ça, c'est le type de l'engagement dont on a besoin si on va attraper l'onction. Et Élisée le vit et s'écria, « Mon père, mon père !» Mais Élie n'était pas son père biologique, mais il est devenu son père. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser ton père. Ta maison est ta maison. Mon père, mon père. Le char d'Israël et sa cavalerie. Et il y avait des hommes dans le char. Et il blâmait les chars. Il voulait même maudire les chars. Et il voulait dire que vous m'avez séparé de mon père. Et il a pris, la Bible dit, il saisit ses vêtements et les déchira en deux pièces. Verset 13. Et il releva le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et s'en retourna. Quand les choses spirituelles se passent, tu ne sauras pas ce qui se passe. Tu n'auras pas d'émotion, pas de sentiments, mais quelque chose de merveilleux s'est passé. Et s'en retournant, il se tint sur le bord du Jourdain, seul, solitude, sans espoir, parce que la personne avec qui il a été avec n'est plus. Ça, c'est l'effet de la mort. Quelque chose dont tu es habitué n'est plus. Maintenant, il pleurait à côté de fleuve de Jourdain. Et il tenait en main le manteau, la seule chose que Élie avait laissée. Il a pris le manteau, il a touché, il a frappé les eaux et il a dit, « Où est le Dieu d'Élie ?» Et lui aussi frappa les eaux et elles se divisèrent de ça et de là. Et Élisée passa. Donc, ça, c'est le premier attentat d'Élisée d'utiliser l'onction. Ou bien d'essayer, voici, lui, il était un. Donc, tout ce que répondait à son père a répondu à lui aussi.
le fleuve. Quand Élisée aussi est venu, il a frappé l'eau.
Quand vous serez en Israël, vous allez voir comment le fleuve du Jourdain est. Je vous vois déjà en Jourdain, en Israël bientôt. Église de First Love, bientôt on ira. Vous allez constater que quand vous voyez le fleuve du Jourdain, il y a beaucoup de boue. Ce n'est pas trop grand, c'est petit, mais tu vas voir que pour frapper ce fleuve, afin que ce fleuve-là se divise, tu vas voir que la seule chose qui a répondu à Élie, c'est la même chose qui a répondu à Élisée aussi. Ça, c'est la chose qui montre que tu es loin. Le même effet de la prédication, le même effet qu'il a, c'est le même effet que tu auras sur ta vie. Alléluia. Et une fois, tu vois qu'il faut la détermination. Vous devez avoir ce... Vous devez réussir à ce test. La Bible dit de compter toutes choses, de la joie, quand vous traversez par des épreuves. C'est pourquoi moi, je n'aime pas des tests ou bien des épreuves à l'école. Je remercie Dieu que je n'écris plus des examens à l'école. Parce que ce n'est pas une chose facile. Il y a trop de pression et de tension. Mais la Bible dit de compter comme de la joie quand vous expérimentez des tentations diverses. Vous voyez, à chaque fois que vous êtes tenté, ça veut dire que vous serez promu. Élie a passé, Élisée a passé par 4 tests. Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain. D'accord? Après avoir passé par ces points de pression, il était prêt de recevoir l'onction. C'est après le dernier, le Jourdain, qu'Élie a dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc, il y a 4 endroits possibles pour des épreuves dans votre vie. Vous savez ce que Jésus pouvait faire quand il était avec Pierre? Quand Jésus avait constaté que Satan allait tamiser Pierre, il allait dire, Pierre, viens. Tu vois, Bethany, quelque chose là? Il faut aller là-bas. Et il faut aller m'attendre là-bas. Je serai là-bas le mardi. Il faut juste maintenant aller. Pierre allait et puis il ne serait pas là pour qu'on l'arrête. Oui. Jésus pouvait arrêter ou bien bloquer les tentations d'atteindre Pierre. Il pouvait envoyer Pierre en Galilée. Pierre allait rater la tentation. Oui. Mais il a laissé Pierre d'être avec lui pour traverser les épreuves. Donc, la plupart des épreuves, c'est la volonté de Dieu, parce que quand vous passez par ces épreuves, cela prouve que qui vous êtes. Des fois, quand vous fuyez des épreuves, vous fuyez de votre promotion. Parce que Élisée n'était pas donné le double portion de l'onction jusqu'à ce qu'il a traversé les 4 épreuves. Soit c'était les prophètes qui étaient en train de pousser Élisée, ou bien c'était Élisée qui était en train de pousser. Des fois, un homme de Dieu peut te pousser. Parce que chaque homme de Dieu est un homme. Avant de Dieu, c'est un homme de Dieu. Ils ont des mauvaises humeurs, mais ils sont des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas gentils, ils n'aiment pas parler, ils ne sont pas amicaux. Certains hommes de Dieu qui n'ont pas des amis, ce sont des grands hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui sont des sanguins. Quand il s'agit de l'argent et de montrer, tu les vois. Mais ce sont des hommes de Dieu. il y a des hommes de Dieu qui sont des flegmatiques, mais ce sont des grands hommes de Dieu. Chaque tempérament a sa tentation qui va avec. Parce que avant que tu ne te réalises, tu es en train de gérer avec la dépression ou bien la mauvaise humeur ou bien la colère de la personne ou bien la convoitise. Ou bien la personne est sanguine ou bien désorganisée. C'est un pasteur sanguin. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela seulement peut te chasser. Il peut être aussi un pasteur africain avec des mauvais leaderships. Ça, c'est le même type de leadership qui a tourné l'Afrique en désert. La même chose peut être dans l'église de ce pasteur-là. Tu vas voir que tout le monde sous lui est pauvre. Donc, l'homme de Dieu lui-même peut te pousser de lui-même. Et les autres aussi vont te mettre de pression. Jésus pouvait dire à Pierre, « Pierre, tu sais, il faut aller acheter des poissons. Ça sera près demain, mais je vais envoyer Jean de venir te chercher. » Il allait rater le test, mais si tu n'as pas passé par le test, tu n'es rien. Et si tu passes par le test, maintenant tu es digne d'une double portion. Donc, tu vas voir que Élie, maintenant, Élie était en haut, Élisée était en bas, mais lui aussi, il est monté en haut. Donc, quand Pierre, maintenant, avait échoué, Jésus est venu, il a parlé avec Marie Magdala. Vous allez voir, il dit que non, Jésus est tombé amoureux de Marie Magdala. Où était Pierre? Ce n'est pas Pierre qui a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Je vous demande une question personnelle. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a dit qu'il ne connaissait pas Jésus? Et les autres disciples, la Bible dit qu'ils ont tous quitté Jésus, ils ont fui. À la croix, c'était Marie de Magdala et puis sa maman. Donc quand il était en train de sortir de la mort, il a choisi de parler avec Marie de Magdala. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi de parler avec Pierre? Mais Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Ce n'est pas Judas aussi qui l'avait vendu. Les autres aussi ont fui. Ils ont tous abandonné Jésus. Donc, la plus grande vision était donnée à Marie de Magdala. Faites attention de vos pensées. Oui. Pierre a échoué misérablement. Élie a résisté la pression. Si vous êtes sous pression, vous êtes vraiment appelé par Dieu. Oui. Donc Dieu va vous utiliser et aujourd'hui, vous devez décider de passer par toutes les épreuves et vous devez aussi réussir dans toutes les tentations de Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Gilgal, c'est l'endroit où, quand les enfants d'Israël venaient de l'Égypte, quand nous serons en Israël, vous allez voir la montagne. Pouvez-vous imaginer, vous allez voir des montagnes comme cela, et vous allez voir le Jourdain, et après le Jourdain, c'est Jourdain. Et après, ce côté du Jourdain, c'est Israël. Donc, quand ils étaient en train de traverser, arrivés aux montagnes, ils sont descendus, ils sont arrivés au fleuve. Vous êtes avec moi, vous voyez, de loin?
Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas? Ok, je monte un peu. Vous voyez maintenant? C'est ici, la montagne, c'est ici, fleuve, Jourdain. Ici, c'est Israël. Souvent, vous entendez dire le West Bank, le côté ouest, ou bien le côté ouest de Jourdain. Ok? Donc, quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui dit, il faut rester là-bas et regarder. Et Dieu lui dit que tu vas voir, mais tu ne vas pas entrer. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, quand ils étaient de retour, ils sont venus à Jourdain, l'endroit appelé Gilgal. Et c'est là, Moïse maintenant lui dit, tout le monde doit être circoncis. Hey! Sinon, ils étaient circoncis depuis longtemps. Mais c'est comme si, maintenant, on va faire inspection pour voir qui n'a pas été circoncis. Et ils ont passé par toute la ville pour voir qui est circoncis, qui n'est pas circoncis. Et ils ont coupé les Donc, Gilgal parle de l'endroit de souffrance et l'endroit de douleur. Si vous n'êtes pas prêt pour la souffrance, si vous n'êtes pas prêt pour... Et sur la route de ministère, il y a des souffrances, il y a des peines. Sur la route, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail qui est facile. Si quiconque est le président du Ghana peut dire la vérité, ils ont voyagé partout. Un jour, un de nos pasteurs a rencontré son équipe de campagne de ce président-là. Quelque part dans le pays, en train de voyager, bouger, en train de convaincre les gens pour voter pour lui, ce n'est pas une route facile. Quand quelqu'un veut devenir président, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si vous n'êtes pas prêt pour les douleurs, vous ne pouvez pas devenir les disciples de Jésus-Christ. Donc, il faut toujours chercher, voir les gens qui aiment se plaindre. Récemment, nous avons eu un pasteur comme ça. Il se plaint. Quand il était dans cette ville, il se plaignait. Quand il est dans cette ville, il se plaint. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui sont toujours mécontents. Toujours mécontents. Il ne s'agit pas même de problèmes actuels, mais ils sont toujours mécontents de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont toujours quelque chose de négatif à dire. Y a-t-il des gens comme ça ici? Ils ne sont pas venus. Vous êtes ici, vous vous plaignez de la comment on appelle la chaleur. Vous savez quelle partie de cette salle qui est plus chaude? C'est là où je suis, là où vous êtes n'est pas chaud comme ici. Mais nous sommes contents. J'ai dit, nous sommes contents d'être dans la maison de l'Éternel. Donc, à Gilgal, si vous passez par le test de Gilgal, vous devez être prêt pour la circoncision et aussi afin qu'on enlève tout de n'importe quoi de votre vie. Je ne vais pas parler trop de circoncision, mais cela enlève quelque chose de vous. Et la circoncision, comme je parle et comme je dis, beaucoup d'infections arrivent aux gens autour de l'endroit incirconcis des hommes. Gilgal,
c'est l'endroit où Dieu a dit à Josué qu'il n'y aura plus de manne. Vous devez être mûr, mature. Sur votre route pour chercher l'onction, vous allez constater que les choses que vous voyez comme faciles, ça ne sera plus facile. Et jusqu'à ce que le temps arrive où vous devez maintenant dépendre de ce que Dieu vous a donné pour devenir quelque chose, vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Vous êtes dans une église où les messages sont là, les livres sont là, le podcast est là, votre pasteur vous dit, personne, tout ce qu'il faut, écoutez, le travail que vous faites ici, hein, vous savez que l'argent, et vous êtes habitué à les choses gratuites. Maintenant, il n'y a pas d'église. Il faut commencer toi. Et puis, on va voir si tu peux aussi survivre. Tu peux aussi faire quelque chose. Les choses sont différentes. Les choses sont difficiles maintenant. Et c'est là, maintenant, quand les gens sont envoyés en mission, ils commencent à lutter parce qu'ils voient que ce n'est pas facile. Quand on leur dit de construire, ils ne peuvent pas construire. C'est pourquoi dans cette église, avant de devenir bishop, tu dois être quelqu'un qui a construit. 947 kilomètres de rails que le blanc nous a laissés, nous-mêmes, on n'a pas pu pour ajouter. Vous voyez que nous sommes incapables de construire, incapables à diriger. Gouvernement après gouvernement après gouvernement viennent et ils n'arrivent pas à connecter Accra et Kumasi. Gilgal, c'est l'endroit où maintenant rien ne te sera pas donné. C'est toi-même qui dois construire. C'est pourquoi les endroits jolis à Accra, Cantonment et les endroits là, ce sont les endroits où les blancs ont fait. Même à Kumasi, c'est la même chose. Inchaeso, à Honjo. Ce sont les endroits où le blanc avait construit pour mettre ces gouverneurs. Maintenant, quand on prend toutes ces choses-là, on dit maintenant, il faut construire pour toi-même. Tu vois que ce n'est pas facile. Tu vois que chaque jour, il y a une raison pour toutes ces choses-là. Vous allez dire que non, le gouvernement, non, c'est le pétrole. Non, c'est ça. C'est pourquoi Dieu vous envoie à Gilgal. Il n'y a plus de manne. Voyons qui tu es. Ça, c'est la route pour l'onction. C'est pourquoi il est bon pour vous d'être tenté ou bien de traverser les épreuves pour voir si vous faites ce que vous lisez ou bien vous êtes vraiment ce que vous dites que vous êtes. Tu ne veux pas être chrétien au lycée. Quand tu rentres à l'université maintenant, tu as rétrogradé. Ça veut dire que tu étais protégé par le lycée. Mais bien que tu entres à l'université, quand tu peux faire tout ce que tu veux faire, tu vois que tu n'es rien. Tu partais à la Ligue biblique parce que tout le monde partait. Tu pars à l'église parce que tout le monde partait à l'église. La manne a cessé. Et c'est là que nous allons voir. La manne était la provision surnaturelle. Tu vas voir que maintenant, quand il s'agit de toi-même, faire quelque chose pour toi-même, tu vois que tu n'es rien. Donc, sur la route pour avoir l'onction double, tu dois être tenté, tu dois subir les épreuves. Tu vois que là-bas, ils ne vont pas faire les choses pour toi. C'est toi qui dois te lever pour implanter des choses. Sinon, on ne va rien faire pour toi. Sinon, tu vas voir que ce n'est rien. Juste de lycée jusqu'à, comment on appelle, l'université, tu as déjà changé. Tu as quitté la maison de ton oncle seulement pour aller chez toi et puis tu as changé. Juste un changement et maintenant, tu es changé pour devenir quelque chose d'autre. Cela veut dire que tu dépendais du surnaturel. de Gilgal, tu vois que maintenant on dit, tu es sur toi maintenant. Il faut faire quelque chose qu'on va voir, que tu peux survivre. Ça, c'est la route qui mène à l'onction. Sans passer par là, tu vois que tu n'es rien. Et vous voyez que dès que nous, en tant qu'un pays, a commencé, nous avons commencé maintenant à vivre et gérer nos propres choses. Vous avez vu comment nous avons mal géré le pays. Et maintenant, on va arriver à Bethel. Si vous vous souvenez, c'est Bethel que Jacob a rencontré l'Éternel. Bethel, c'est l'endroit de vision, l'endroit d'avoir une rencontre avec Dieu. Donc, à Bethel, Dieu va te donner des rêves. Moi, j'ai des grands rêves pour Dieu. La fille qui est morte, qui chante là, Whitney Houston, quand il a commencé sa carrière, à un moment donné, il voulait chanter des gospels. Il a essayé de financer B.B. Winans, C.C. Winans. Vous voyez, le rêve était là, mais cela a changé dans le monde pour devenir quelque chose du monde. Donc, la vérité, c'est que nous avons tous les rêves. Qui a des rêves de Dieu. Dieu te donne les rêves. Il n'y a personne ici qui n'a pas de rêve. Le Saint-Esprit donne les rêves. Le Saint-Esprit donne quoi? Des rêves.
J'avais des rêves de commencer des églises, de faire des campagnes, de construire des églises, de... Moi, par la grâce de Dieu, je vois mes rêves s'accomplir. Et toi, tes rêves?
Bethel, c'est l'endroit où Jacob a eu des rêves. Mais ma question, c'est que, est-ce que tes rêves s'accompliront? Mais là-bas aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu que si Dieu sera avec moi, je vais construire. Si Dieu sera avec moi, je donnerai ma dîme.
Dieu te regarde pour voir, est-ce que tu seras quelqu'un qui est dévoué?
Certains parmi vous, vous êtes dans l'église, mais vous n'avez pas appris. Comment est-ce que tu peux être à l'église, mais tu n'as pas appris à donner Dieu 10% de ton argent? Donc, qu'est-ce que tu vas lui donner? Alors, qu'est-ce que tu vas donner à l'Éternel si... tu ne peux pas lui donner 10%. Quelqu'un t'a donné 250 cédis et tu ne peux pas donner à Dieu 25 cédis. Waouh, ça c'est sérieux. Partout dans la Bible, quand nous serons en train de donner les dîmes, tu vois seulement peu de personnes. La route pour l'onction, tout le temps, la route pour l'onction attire de l'argent. Les gens ont un attirent de l'argent. Attire beaucoup d'argent. Des fois, tu vois, quelqu'un a besoin de l'argent et tu dis aux gens, donne à cette personne de l'argent et il te dit, non, on lui ne donne pas. Et toi qui n'as pas besoin de l'argent, on vient te donner l'argent. Quand il vient aussi, il donne des proverbes. Donc Dieu veut savoir ce que tu vas faire s'il te donne de l'argent. Et tu peux imaginer, voici ce qui se passe au pays maintenant. Vous pensez que le Ghana n'a pas de l'argent, non? Il y a plus d'argent, plus que nous avons besoin. Mais où est l'argent? Si cette église voulait voler de l'argent pour utiliser ça pour faire ce que nous voulons, nous ne serons pas ici. On allait voler. nous allons écrire des contrats qui ne veut dire rien. Des contrats, au lieu de construire toutes les routes, vous allez construire seulement 5 routes. Voici ce qui se passe dans le pays. Donc, quand Dieu veut te donner une grande onction, qui veut une grande onction, lève ta main si tu veux une grande onction. Dieu va te tester pour voir si tu lui donneras la dîme, tu seras honnête avec. Si tu vas voir l'argent de l'église et puis tu vas prendre ça, mettre ça dans ta poche. Ou bien un dollar qui ne t'appartient pas et tu vas dire que non. Si tu vas gaspiller ou bien que tu vas dépenser la dîme, mais tu n'as pas peur de dépenser la dîme, Dieu te regarde. Et Dieu va te mettre à l'épreuve. C'est pourquoi les gens n'ont rien. Parce que si Dieu va te donner quelque chose, tu vas voler tout. Oui. Toutes ces personnes qui ont été faites des évêques, ils sont vains. L'argent qu'ils ont utilisé, l'argent qu'ils ont utilisé pour construire leur cathédrale, ça ne vient pas de là où ils sont. Ça venait de quelque part. On pouvait manger tout cet argent-là. Dieu va te tester tout le temps. Parce que à un point dans ta vie, tu vas voir que tu ne peux pas même utiliser l'argent que Dieu va te donner. Un jour, je suis allé à un pays en Afrique de l'Ouest. Et ce pays-là, l'orthographe du nom du pays commence avec N. Et là-bas, j'ai vu dehors, vous voyez, Il y avait des réservoirs d'eau pleins sur les hôtels. Les gens croyaient que c'était un réservoir d'eau, mais ils avaient rempli ça avec des dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Il y a un ami qui est allé dans un pays, et ce pays-là... Il avait fini de prêcher, il y avait un homme dans l'église, l'homme a dit, s'il vous plaît, il faut venir chez moi. Ils sont allés à la maison, c'est le pasteur qui me dit. Il dit, quand il a ouvert la porte, la salle était pleine de l'argent. Les heureux, des dollars, des livres sterling. Il dit, il était étonné. Et l'homme a pris sa main comme ça, il a mis un peu. Il a donné comme une offrande. Quand il est allé à la maison, il a compté, c'était 20 000 livres sterling. Ça, c'est l'argent que les gens ont. Des millions. Donc Dieu nous dit aujourd'hui, si je te fais confiance, avec l'onction, l'argent suit. L'argent ne va pas sur le flot jusqu'à ce que Dieu a confiance en toi. Bonquet était tout le temps en train de soulever des fonds. 1 million chaque mois de dollars. Chaque année, il soulevait 24 millions par an. Il m'avait dit qu'il y a un homme qui lui donnait tout le temps 1 million de dollars. 1 million de dollars. Il m'a parlé de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Bethel. Et puis maintenant, il y a Jéricho. C'est l'endroit de la guerre. Est-ce que vous êtes prêts pour combattre? Est-ce que vous êtes prêts pour combattre le diable? Est-ce que vous êtes prêts pour te battre? Quand tu te trouves à Jéricho, tu dois être quelqu'un qui combatte pour la grâce de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Lève ta main et dis, je suis prêt pour combattre. tu es prêt pour combattre pour Dieu. Il ne faut pas combattre Dieu, mais combattre pour Dieu. Hey, c'est qui ça? Qui a dit de combattre Dieu là? Hein? Et finalement, le Jourdain. Tout le monde dit, je suis en train de gagner cette bataille. Je gagne à Gilgal, je gagne à Jéricho, je gagne à Bethel. Bethel, c'est où? Bethel, c'est l'endroit où Dieu voit que tu es prêt pour lui dire 1 sur 10. Bethel, c'est l'endroit où Dieu voit que tu es prêt pour construire une maison pour lui. Et Jourdain. Qu'est-ce qui se passe à Jourdain? Jourdain, c'est l'endroit où tu reçois le double portion. Ah oui? Ah oui? Il y a un endroit où, quand tu arrives, tu vois que l'onction que tu cherches est sur toi. Un jour, je suis allé quelque part et je me suis dit, je peux voir l'onction de banquer sur moi. Je voyais les gens debout là-bas, beaucoup. Oui. Quand on m'avait dit que nous avons maintenant imprimé plus de 20 ou 30 millions de livres, je pouvais voir qu'il y avait l'onction de Kenneth Hagin à l'œuvre. Même l'onction de John Wesley pour combattre les orangs-outans et de construire des églises. Jourdain. Vous allez voir Jourdain dans votre vie. Qui veut la grâce qui est sur votre vie? Moi, j'ai prié souvent, je dis à Dieu, Seigneur, que la grâce qui est sur Kenneth Hagin soit sur moi. Moi, je prie et je mentionne. Moi, je ne suis point honte de l'onction. Moi, je dis la grâce qui est sur cette personne, je veux. Je dis la grâce qui est sur cette personne-là, je veux. Parce que Philippiens chapitre 1, 7 dit que vous êtes les gens qui partagent dans ma grâce. Donc, vous pouvez partager la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Oui. La grâce. La grâce. Et tu vas voir que la même chose qui répondait à ton père, ça va répondre aussi pour toi. La grâce pour construire sans dette vient sur toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que vous soyez prêts de combattre jusqu'à arriver à l'endroit de Jourdain. Et au Jourdain, vous allez avoir votre rêve accompli. Jéricho, c'est l'endroit où tu arrives, où tu deviens ce que tu rêves et tu désires de devenir. C'est à cet endroit, quand tu appelles quelqu'un, mon père, c'est réel. Beaucoup de personnes vous appellent papa, papa, mais ce n'est pas réel. Mais il y a un endroit, quand tu dis papa, c'est réel, c'est vrai. Vous voyez, au Ghana, on appelle tout le monde papa, daddy, père, dabada. Hein? Mais il y a un endroit où quand tu dis, ça c'est mon père, ça c'est vrai. Il y a un endroit où on dit mon père, et tu vois que tu es devenu un vrai fils. Mon fils Josué a été mon fils depuis qu'il est né. Mais il est devenu un fils d'une manière différente à un point. Ouais, il est un fils biologique, ça je ne peux pas nier. Mais peut-être tu n'es pas un fils spirituel. Vous êtes avec moi? Peut-être, tu es un enfant, mais tu n'es pas un enfant spirituel. tu ne portes pas les ADN spirituels pour devenir ce que ton père. Tu peux être un enfant de cette église, tu peux même être un pasteur, mais tu ne portes pas l'onction. Mais tu dois avoir comme objectif d'arriver à ce point. Ou quand tu arrives là-bas, ce qui sort de ta vie d'une manière spontanée, c'est ce qui est sur ton père. Parce que quand mon épouse était dans la salle d'accouchement, elle a dit quelque chose et je savais qu'elle n'était pas vraiment en douleur. Parce qu'elle a commencé à parler le français, elle a dit « je suis malade ». J'ai dit « non, tu n'as pas encore des douleurs ». Si c'était les douleurs, tu ne veux pas parler en français, tu vas parler ta langue maternelle, tu vas dire « Adjaï Yehovah !» Quelque chose. Mais quand elle a commencé à parler le français, j'ai dit non. Ça. Donc, quand Élie était provoqué, quand Élisée était provoqué, tout ce qui est sorti de sa bouche, c'était mon père. Le Jourdain est l'endroit où on devient comme le père. L'endroit où on reçoit double portion. L'endroit où tu vois les choses répondre à toi de la même manière qu'ils répondaient à ton père. Jourdain, c'est l'endroit où tu commences ton ministère avec l'onction. Et tu vois qu'il y a de la puissance pour faire ce que tu fais. Il y a de la grâce. Et je te vois venir à cet endroit. Ne laisse pas le diable changer ta manière de penser. J'ai commencé l'application comme ça. Je termine avec ça. Quand le synazo vient, il dit, toi, tu es en train de faire du théâtre. Je vais te montrer quelque chose. Fais attention. Quand tu étais en train de chanter, quand tu étais en train de chanter quoi, je l'ai trouvé. C'est toi qui donnais des témoignages la dernière fois, non? Pas de problème. On va voir. Satan a désiré de te tenter pour te pousser loin de ce que tu avais dit dès le commencement. Dès le commencement, tu avais dit quoi? Tu avais dit, tu vas aller où? Tu veux aller en prison et même à la mort. Voici comment tu avais commencé. Et à la fin, Pierre est allé en prison et il est mort. Parce que quand tu seras au Vatican, on va vous montrer là où il était crucifié. Je te vois accompli tout ce que Dieu a planifié pour toi. Vous y serez, peu importe les tests. Cela s'accomplirait. Recevez l'onction. Recevez les grâces. Recevez la puissance. Recevez la puissance de Dieu. Vous allez atteindre Bethel et vous serez à Jourdain pour recevoir la puissance et l'onction de l'Éternel. Restez debout, levez vos mains et remerciez l'Éternel. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci au nom puissant de Jésus-Christ pour ta grâce. Tu nous as donné. Que nous recevions l'onction et l'huile. Je veux que vous leviez vos mains, priez et dites, Seigneur, toute épreuve qui est devant moi que je dois traverser, Seigneur, je suis en train de prier et croire que je vais réussir. Je vais réussir. Mes rêves s'accompliront. Je vais passer par toutes les épreuves et je sortirai brillant. Je vais traverser Gilgal. Je vais traverser Jéricho et je vais sortir. L'endroit où je serai prêt à recevoir l'onction et la grâce qui est sur ma vie. Seigneur, je te rends grâce. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Toutes les têtes sont baissées. Si tu es là aujourd'hui, tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur. Levez vos mains. Si vous êtes ici, vous voulez recevoir l'onction, levez vos mains. Père, que toutes les mains qui sont levées, Seigneur, bénis chacun avec des manteaux invisibles. Avec ce manteau, que nous accomplissons ce que nous n'avons pas rêvé d'avoir, ou bien des rêves possibles. Que nous recevons la puissance pour résister tout type de pression sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le manteau. Recevez la grâce. Recevez la puissance de devenir ce qui est dans votre rêve. Tout ce que Dieu vous montre à Bethel, recevez la grâce. Recevez la grâce. Peu importe ce que cela prend, recevez la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Maintenant, toutes les têtes sont baissées. Père, merci. Si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je veux prier pour vous. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, levez vos mains maintenant. Ça, c'est la deuxième fois. Je vous donne la chance de donner votre vie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seuls ceux qui ont levé les mains, venez, venez, venez très vite. Prions, faisons cette prière ensemble. Jésus est le sauveur du monde. Tu veux le prendre comme le sauveur de ta vie? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez vos mains et dites cette prière. Et dites, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne ma vie. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. S'il te plaît, lave mes péchés. Fais de moi une nouvelle personne à travers le sang de Jésus-Christ. Merci, Père. S'il te plaît, crie mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je servirai Jésus-Christ. Merci, Père, de m'avoir sauvé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.